Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Catherine Ney, Robert Namias et Charles Villeneuve.
Nous allons parler ce soir de la mobilisation des Gilets jaunes encore et particulièrement de cette décision du Conseil d'État. On l'a appris à la mi-journée. Ce matin, le Conseil d'État a rejeté les demandes de suspension d'usage des LBD, les fameux lanceurs de balles de défense, les flashballs qui font tant débat. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à réagir au 39-21. Vous pouvez continuer, évidemment. Qu'est-ce que ça nous apprend, à part le statu quo, Charles Villeneuve ?
Ben, ça nous apprend d'abord que le LBD est encadré d'après le Conseil d'État et son usage est proportionné aux troubles qu'il faut faire cesser. C'est exactement ce que le premier enseignement qu'on peut tirer de l'arrêt du Conseil d'État. Par conséquent, dit ce même Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, il faut le rappeler, juge que l'usage du LBD est adapté aux manifestations. Et puis le Conseil d'État reconnaît la dangerosité du LBD tout en indiquant qu'il est possible qu'il y ait eu des accidents. Toutefois, ajoute le Conseil d'État, qui relève que les forces de l'ordre n'ont pas fait une mauvaise application du LBD. Et enfin, il reconnaît que compte tenu des violences et de la répétition des manifestations, souvent, dit le Conseil d'État, non encadré et non organisé, le LBD devient une arme indispensable, mais qui appartient à l'État et à l'administration, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, de rappeler les conditions d'emploi du LBD, évidemment, aux policiers, aux gendarmes. En réalité, si vous voulez, à une unité qui a été créée après la fameuse manifestation du 1er décembre, c'est à partir de là que le LBD a été beaucoup utilisé. Rappelons-nous que le dispositif des forces de l'ordre ont quasiment, si vous voulez, abdiquer la maîtrise des manifestations. Et notamment, vous vous souvenez sans doute de la fameuse, le pillage en quelque sorte, de l'Arc de Triomphe.
Catherine ?
Oui, le LBD fait partie d'un arsenal policier que la police veut conserver parce que la doctrine de la police est que lorsqu'il y a une manifestation et que la police doit protéger les gens et les manifestants, c'est pas deux bagarres entre bandes rivales. Donc, il faut qu'il n'y ait aucun contact entre les policiers et les manifestants. Et donc, s'ils s'approchent de trop près, il y a plusieurs variantes de riposte. Il y a la première qui est les gaz lacrymogènes. Il y a aussi les lanceurs d'eau pour les éloigner.
Oui, les canons à eau, bien sûr.
Les grenades offensives qui, lorsqu'elles sont jetées, normalement, ne font jamais de mort et de tout. Et ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas les ramasser. Et ceux qui, dans les émeutes, dans les dernières manifs, ont perdu une main, il y en a une dizaine, je crois, c'est qu'ils ne savaient pas, ils l'ont ramassée pour la rejeter sur les flics. Et là, ils ont perdu une main. Ça ne se fait pas. Et le LDB, parce que quand l'usage du LBD, c'est quand les manifestants s'approchent de trop près, quand ils ont de l'acide qu'ils ont jeté sur des policiers ou qu'ils approchent les policiers avec des pavés, là, à condition de ne jamais viser la tête, normalement.
Normalement, voilà. Mais oui, ça fait partie des questions qui se posent,
évidemment.
Il ne faut pas viser
la tête, mais c'est un outil de riposte indispensable. Et alors, quand on parle aux policiers, ils disent, vous savez, nous, on nous dit souvent à l'école de police, il y a eu, rappelez-vous les années 92-93, il y a eu des émeutes à Los Angeles où il y a eu vraiment des corps à corps entre les policiers et les trucs. Il y avait eu 80 morts et là, ils avaient été tués et assassinés.
C'est la doctrine. Catherine, c'était effectivement très important de le rappeler. La doctrine du maintien de l'ordre en France,
c'est pas de contact.
On se tient à distance.
À distance.
On tient les manifestants à distance. Robert Namias.
Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que cette décision, au fond, elle était quand même assez logique et attendue parce que, d'ailleurs, le Conseil d'État le dit bien, si tout d'un coup on avait interdit l'utilisation de cette arme, les policiers se retrouvaient totalement sans possibilité de se défendre, autre qu'en effet par le corps à corps, ce qui est absolument épouvantable, ou alors ce qui est inimaginable en France, en tous les cas qui n'est pas dans la tradition française, qui est évidemment d'utiliser une arme létale, c'est-à-dire leur revolver.
L'arme de poing, oui. Hein,
pour parler clair.
Absolument.
En même temps...
Et d'ailleurs, juste une parenthèse, quel n'a pas été le frisson, cette vidéo qu'on a tous vue sur les Champs-Élysées,
quand il a sorti
ces trois
son
motards,
arme.
Bien sûr, sans son arme, il y a une gravité. De nous tous, quand on la regarde sur nos téléphones, sur Twitter, bon, c'est très grave. Le moment où on voit ce policier sortir son arme, on sent qu'on est sur autre chose.
Et avec d'ailleurs, le fait que le policier lui-même doit s'en rendre compte, puisque bien évidemment, il le fait pour éloigner les manifestants.
Bien sûr, il ne l'a pas utilisé.
Et bien sûr, il n'a pas l'utilisé. Ce que je veux dire,
il aurait pu tirer en l'air. Il y a une sagesse aussi.
Dans un moment donné, on se souvient de cette scène.
Ce que je voudrais simplement faire remarquer, c'est que autant cette décision a sa logique immédiate. Il y a une manifestation demain, on ne va pas tout d'un coup désarmer la police qui fait vraiment son travail. En revanche, on peut aussi constater objectivement qu'il y a un nombre de blessés graves. Je ne parle pas. Il y a les blessés parmi les forces de l'ordre, c'est un fait. Mais il y a un nombre de blessés graves qu'on a rarement connu dans les années précédentes, dans les manifestations, quelle que soit la violence des manifestations avec casseurs, voitures brûlées, etc., il n'y avait pas ces blessés graves. Donc il y a un problème en ce qui concerne cette arme tout à fait particulière. Et les policiers eux-mêmes, d'ailleurs, moi j'en ai entendu un certain nombre, dire qu'effectivement, ils demandent à pouvoir se défendre, ils demandent à pouvoir faire en sorte que l'ordre soit maintenu, ce sont des forces de maintien de l'ordre, mais ils disent clairement que effectivement, quelles que soient les précautions qu'ils prennent, y compris avec la caméra, en cherchant plutôt à viser les jambes, bon, très bien, c'est une arme qui est quand même extrêmement violente et il doit y avoir moyen de trouver une arme qui soit à peu près tout aussi efficace dans la défense et qui blesse moins que celle-ci.
Charles, oui, Charles. Il faut rappeler d'abord le nombre de blessés. Tu viens d'en parler, Robert, parce que c'est là qu'on trouve toute la limite du LBD. Il y a en tout 3000 blessés, 1900 chez les manifestants et 1200 dans les forces de l'ordre. Évidemment, il y a un journaliste d'ailleurs qui est attaché à un site qui compte
David Dufresne.
Le nombre de
David Dufresne, on l'a interrogé
qui
aussi.
Lui a donc a fait le compte en annonçant 17 éborgnés et 4 mains arrachées, je crois. Bon, par les grenades de désencerclement, hein, parce qu'on n'utilise plus les grenades offensives dans les manifs, notamment rapprochés. Bon. Ce qu'il y a, c'est que les policiers, et c'est pour ça qu'on appelle cette arme une arme intermédiaire entre justement ce que évoquait tout à l'heure Robert avec ses motards sur les Champs-Élysées qui se retrouvent sans aucune défense, qui sont assaillis par 3 gilets jaunes qui leur jettent un certain nombre d'ustensiles dessus, et ils porte la main, évidemment, sur son étui de pistolet. Il sort le pistolet. Il ne l'utilise pas, bien sûr. Il lui faut donc une arme intermédiaire. C'est pour ça que le LBD a été utilisé. Mais il faut savoir aussi que, et c'est là aussi toute la limite, non seulement le nombre de blessés, mais il y a un problème sur le plan juridique. C'est que vous avez l'action, si vous voulez, préventive, qui est l'action administrative, de la justice administrative. C'est-à-dire que on dépose évidemment le fait qu'on va manifester. C'est un cortège encadré avec une coordination entre la police et le service d'ordre. Et là, il n'y a pas de problème, si vous voulez. Or, le problème maintenant existe parce qu'on passe dans le cadre de la police judiciaire, puisqu'il y a en réalité des attroupements qui ne sont pas déposés à
oui, des manifestations non déclarées,
voilà, à
des
préfectures de police,
pas
et à partir de là,
sécurisé.
Et à partir de là, on tombe dans le délit en quelque sorte. C'est un délit. Et donc, on a armé de LBD un certain nombre de policiers qui appartiennent à la police judiciaire, la BAC notamment, et puis aussi au CRS qui sont formés pour ça. Mais malgré l'encadrement, parce qu'ils sont très encadrés, il y a un règlement d'utilisation. Il n'empêche que, c'est vrai qu'on ne doit pas, d'abord il y a un officier qui est avec eux et qui les autorise quand ils sont trop compressés, oppressés par les attaques et par la violence, parce qu'il y a une violence intrinsèque qui est quand même assez importante, on l'a vu. Bon, il y a des dérives, souvent. Et donc c'est à partir de là qu'on utilise le LBD. Alors évidemment, on ne vise pas la tête, mais on vise le torse et les membres inférieurs, ou même supérieurs, les bras notamment. Mais enfin, il n'empêche que ça fait des dégâts. Et c'est là la limite, c'est parce que je crois qu'à un moment donné, on ne pourra pas accepter que le nombre des blessés augmente. Et d'ailleurs, Frédéric Pechenard, qui est l'ancien directeur central de la police judiciaire, qui est un proche de Sarkozy, le dit lui-même, avoue que le LBD a ses limites. Et on l'a vu à travers les blessés, notamment le dernier.
Oui. Catherine.
Oui, mais ce qui est assez lié. Oui, mais bien sûr, mais la situation est quand même extraordinaire quand Robert dit on n'a jamais vu autant de blessés, mais aussi c'est la première fois qu'il y a des manifestations qui durent aussi longtemps dans le pays. C'est-à-dire revenir, que c'est les mêmes aussi. que les mêmes policiers, les mêmes gendarmes, les mêmes CRS soient vraiment, ils ne sont pas là pour le plaisir. Hein. Ils n'ont plus de week-end, ils ne voient plus leur famille. Alors quand ils sont là toute la journée, vous savez ce que ça veut dire toute la journée? Ils ne boivent pas pour ne pas avoir envie d'uriner et tout ça. Est-ce que vous savez ce qu'est la vie d'un flic qui est derrière les manifestants? Donc quelquefois, et des gendarmes, et de tous là. Donc par moment, qu'il y ait une faiblesse, un énervement, une peur, voyez, et ils sont quand même eu affaire à des gens, mais d'une hyper agressivité. Vous avez, j'ai parlé à des gens, des pompiers qui disaient qu'ils n'ont jamais vu, ils n'arrivaient même plus à s'approcher des voitures en feu tellement les gens étaient agressifs, leur lançaient des choses sur la tête, prêts à. Et ils ont, certains ont eu l'impression qu'ils voulaient les tuer. Donc, je veux dire, il y a quand même eu depuis ces deux mois une situation en France qu'il n'y a jamais eu depuis des années. C'est un cas unique.
Mais la question est moins le nombre de blessés. Il faut savoir ce qu'on entend par blessés. Là, on voit effectivement que ces armes blessent, mais blessent de manière gravissime. Bon, les yeux perdus,
ouais,
les mains abîmées, voire arrachées, etc.
Les grenades.
Oui, on a utilisé l'expression de mutilation.
Absolument. Donc c'est bien la question de la puissance de cette arme qui se pose. C'est presque une question technique, pardon, mais effectivement, on doit pouvoir utiliser une arme un peu moins efficace, mais qui permet quand même de maintenir l'ordre.
Bah justement, l'aspect purement technique. 19h36, vous restez sur Europe 1.
Europe 1.
Le débat qui continue avec les grandes voix, Catherine Ney, Robert Namias et Charles Villeneuve, cette décision du Conseil d'État sur les lanceurs de balles de défense et aussi quelques réactions qu'on a pu entendre. Il y a le Conseil d'État, la décision était très attendue, mais il n'y a pas que le Conseil d'État qui s'est exprimé sur cette question et le caractère technique du LBD. Nous en parlons dans un instant sur Europe 1.
Vous êtes avec Mathieu Bélière sur Europe 1 et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Robert Namias.
Et vous entendrez beaucoup au sujet des LBD, c'est important de le rappeler, pour être précis simplement, que d'autres pays n'utilisent pas les lanceurs de balles de défense et Charles Orantède, on en parlait, c'est le flashball, parce qu'on dit LBD maintenant, mais on a toujours appelé ça le flashball avant.
Oui, c'est le nom commercial du LBD.
Mais ces autres pays qui n'utilisent pas n'ont pas forcément la même doctrine de maintien de l'ordre, ce que l'on disait avec Catherine, de tenir à distance. Tiens, la distance, par exemple. Le LBD, il a sa puissance. On est censé l'utiliser au-delà d'une certaine 10, distance. 10-12 mètres.
Oui.
On a vu que ce n'était pas forcément le cas à chaque fois, par exemple. Ça, c'est un caractère technique de l'usage du LBD.
Si vous voulez, c'est la raison pour laquelle, maintenant, on a équipé le porteur du LBD, le policier ou... Oui, le policier en général, puisque j'ai le sentiment que, après avoir observé ces groupes de LBD, il n'y a pas de gendarmes qui utilisent le LBD. Bon, c'est les policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, puis aussi du corps des CRS. Ils sont formés normalement à ça, alors le sont-ils suffisamment?
Alors j'avais Cyril en ligne à 19h, un auditeur qui nous a appelé juste après le journal de Marion Calais, qui est formateur dans la police nationale.
Bon, ben, c'est
à Rouen,
intéressant.
Et qui nous disait, concrètement, il appelait pour dire que.
C'est pas suffisant.
Que tout le monde se dit innocent quand il se fait tirer dessus. Oui. Ouais, c'est son témoignage. Mais il nous rappelait que c'était qu'une seule journée.
Oui, voilà.
Qu'une seule journée, que c'était pas forcément
suffisant.
Alors,
c'est vrai que c'est une des remarques que font de toute façon les DAR, notamment, c'est-à-dire ces équipes qui essaient d'apporter du mouvement, si vous voulez, par rapport au déplacement, justement, de tous les groupes gilets jaunes ou pas, c'est-à-dire, bien sûr, des blacks, comment on appelle ça, qui attaquent les
Black Blocs,
oui, voilà. Etc. Et donc, il y a la distance, 10 à 12 mètres, Catherine le rappelait, mais il y a aussi le contexte. Et c'est la raison pour laquelle ils les ont équipés de caméras. C'est pour vérifier si vraiment le policier qui utilise ou qui tire, donc, a tiré justement. Alors là, c'est beaucoup plus difficile parce que ça n'amène pas la réponse de la distance obligatoirement, parce qu'il y a des mouvements, parce que ça bouge très vite. Mais il y a aussi le contexte. Est-il menacé? Est-ce qu'il est en position de légitime défense, en quelque sorte? Il y a tout un contexte. Alors, est-ce que la caméra pourra vérifier? Oui, il y a quand même 111 enquêtes de l'inspection générale de la police nationale, mais il y a aussi des conditions. Là, je regardais le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui lui
demandait la suspension,
considère la suspension. Là, il y a une plainte d'un père parce que l'un de ses enfants qui manifestait a été pris dans ces manifestations, a reçu une balle de ses LBD et il a regardé très attentivement le défenseur des droits, justement, qui demande la suspension. Et finalement, il a dit que toutes les conditions du tireur, du policier, étaient bonnes et qu'il avait tiré à distance, qu'il était en état de menace, évidemment. C'est le gosse qui a pris la balle, mais ce n'était pas destiné au gosse aussi. Ce n'est pas d'une précision extraordinaire non plus. Bon, oui, il faut savoir tout ça. Mais encore une fois, se pose le problème, c'est que si on dépouille en quelque sorte de cette arme intermédiaire le policier, il se retrouve nu. Nu sur le plan de la défense.
Mais c'est pour ça, moi, je me disais, comme il y a la CGT, la Ligue des droits de l'homme qui est tentée, puis le défenseur des droits qui ont porté plainte, moi, je me suis dit, le Conseil d'État, moi, je croyais moins qu'il lâcherait prise et qu'il dirait qu'il faut l'interdire. Mais je crois que ce qui a frappé, y compris sûrement les juges du Conseil d'État, c'est l'hyperviolence parce qu'il y a bien sûr des gilets jaunes qui sont venus manifester pacifiquement, mais auprès d'eux, il y avait des gens qu'on peut dire des émeutiers qui voulaient en découdre.
Il le dit, d'ailleurs, le Conseil d'État.
Il le dit.
Que le LBD est adapté aux manifestations. Voilà, et à la violence des manifestations.
Compris, honnêtement, non, mais c'est clair, mais il reste que, objectivement, c'est vrai que ce flashball, nouvelle norme, si j'ose dire, parce que les caméras. Pardon, mais les caméras, c'est pour l'après. C'est pour l'IGPN, oui, c'est pour l'enquête. Mais une fois que le blessé est blessé, et voire très gravement blessé. Donc, effectivement, ça permet ensuite de déterminer des responsabilités d'ordre judiciaire. Mais ça ne change rien à la question de fond qui est, on rentre dans une ère de manifestation qu'on ne connaissait pas. Il faut s'en défendre, il faut assurer l'ordre public, il faut que les policiers puissent le faire en se défendant eux-mêmes. Pour autant, on ne peut pas, sans rien faire et sans réfléchir à l'arme que l'on utilise, on ne peut pas utiliser une arme comme celle-ci durablement sur des années, alors qu'on vérifie qu'elle fait des blessés qu'on n'a jamais fait dans le passé. Voilà, moi, ce que je dis simplement.
Oui, donc, la conclusion, c'est qu'il faut une autre arme.
Oui, absolument. Oui, c'est ça.
Mais parce que, de toute façon, il n'a jamais été.
Non, mais c'est un vrai débat qui existe aussi au sein des forces de l'ordre. Il ne faut pas croire que les forces de sécurité, que les utilisateurs eux-mêmes et que les officiers de police qui encadrent justement ceux qui utilisent cette arme soient complètement insensibles à ce débat. C'est un vrai débat. Et c'est un débat au cœur même des forces de sécurité.
Mais par exemple, quand il y a eu les manifestations du 1er mai où on a reproché à la police de ne rien faire et de laisser casser, de mettre des feux
aux boutiques
et tout ça, les policiers n'ont pas répondu parce qu'ils n'étaient pas attaqués par les émeutiers. Ils ne venaient pas vers eux. Ils ont laissé faire en disant, bon, il n'y a pas de bagarre. Et d'ailleurs, ça leur a été reproché.
Oui, ils encadrent
là, on était dans un autre cas de figure.
Mais c'était des ordres.
C'était des ordres. Mais là, on était dans un autre cas de figure. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans les manifs, certains en tout cas, voulaient casser du flic. Et le disaient carrément.
C'est d'ailleurs la conséquence, c'est la raison pour laquelle le LBD apparaît. C'est le fameux 1er décembre. C'est ça le tournant. C'est ce jour-là où le service d'ordre, les forces de sécurité sont débordées. Et que le dispositif, finalement, se retrouve en état d'infériorité par rapport à la multiplicité des violences et des attaques.
Robert ?
Non, j'ai rien.
Non, on a fait le tour sur les LBD. Ouais, alors, vous savez quoi ? On va marquer une dernière pause et puis on aura notre dernier tour de table. Il est 19h44.
Europe 1.
Cette décision du Conseil d'État, c'était bien d'en reparler avec les grandes voix ce soir. Beaucoup de réactions au 39-21, évidemment. On est pour, on est contre et c'est toujours beaucoup plus compliqué que de simples décisions manichéennes. Évidemment, le 39-21 est toujours ouvert. Il est 19h45. On est ensemble jusqu'à 20h avec les grandes voix.
Vous écoutez Mathieu Béliard et les grandes voix d'Europe 1, Catherine Ney, Robert Namias et Charles Villeneuve.
Nous allons revenir aussi sur ce rebondissement, énième rebondissement dans l'affaire Benalla, des révélations de Mediapart hier avec des enregistrements que l'on vous a diffusés évidemment dans ce grand journal. Enregistrement d'une conversation entre Vincent Crase et Alexandre Benalla, deux protagonistes dont on a beaucoup parlé, qui au moment de l'enregistrement, le 26 juillet, n'ont pas le droit de se parler, de se rencontrer. Ils sont sous le contrôle judiciaire. Est-ce que c'est un nouveau rebondissement, un énième rebondissement qui change des choses, vraiment, dans le cadre de cette affaire Benalla, à vos yeux, Robert, Charles, Catherine ?
Bah moi, je trouve ça totalement surréaliste, cette affaire. Et elle l'est de plus en plus. Cet épisode-là est tout à fait formidable. On va en faire un film, quoi. À mon avis, d'ailleurs, il y a des auteurs déjà qui écrivent. Peut-être que Benalla lui-même écrit d'ailleurs.
Tu vas peut-être faire un livre toi aussi.
Oui, j'en sais rien, mais en tous les cas.
Non, mais c'est pas fake news.
Parfois, c'est bien le problème.
D'ailleurs, il y a plus de sens que la fiction.
Non, mais posez le truc sur la table. Il y a comme ça, on diffuse partout une bande. Alors en fait, on ne sait pas très bien qui a enregistré la bande. On ne sait pas très bien comment elle est parvenue jusqu'à Mediapart.
Ah, il y a beaucoup de mystères.
Bon, voilà, on ne sait pas si c'est un téléphone qui était posé, à qui il appartenait, si c'est un service secret qui avait foutu des micros dans la pièce où étaient ces gens-là. Bon, ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, on découvre, sans pratiquement s'en offusquer...
On peut tout imaginer, d'ailleurs, par rapport à toutes les options qu'il y a.
Non, mais il est normal, en même temps que Mediapart ne donne pas sa source. Non.
Mais nous, on est libre d'imaginer le scénario à la Netflix.
Totalement surréaliste. Deuxièmement, il parle d'un texto, et alors on glose sur ce texto qui montrerait que Macron a continué de le soutenir au-delà de tout ce qui pouvait être raisonnable. Mais en fait...
Le texto qu'on n'a pas vu.
L'Élysée, pardon oui.
Texto qu'on n'a pas vu.
Texto qu'on n'a pas vu.
Non, c'est ce que j'allais dire. C'est qui le raconte à Vincent Grat.
Le truc surréaliste, c'est-à-dire que finalement, on glose beaucoup sur quelque chose que personne n'a vu et que là, pour le coup, Mediapart non plus, pour l'instant, en tous les cas, ne montre pas. C'est pas difficile de montrer un texto. Hein. Ça fait 2 lignes.
Ah non, mais le texto...
On le met, personne ne l'a vu. Donc on glose.
Alexandre Benalla parle du patron.
In fine, c'est tout juste si on s'offusque réellement du fait que finalement Benalla écrase Bavardet tranquillement, prenait un petit pot là, dans une pièce, on ne sait pas très bien où, alors qu'il y avait une interdiction qu'ils se rencontrent puisqu'ils étaient sous contrôle judiciaire. Donc je dis, c'est un formidable roman. Pour le reste, est-ce que ça intéresse encore vraiment les gens? Moi, je n'en sais rien. Sincèrement, je n'en sais rien.
Je trouve que quand même, ce matin, à 7h45, chez Nikos, le président de la commission des lois du Sénat, et qui s'est transformé en commission d'enquête, a dit deux choses quand même qui étaient intéressantes par rapport à ces enregistrements. Premièrement, on ne sait pas si ce n'est pas une fanfaronnade. On ne sait pas.
Bien sûr.
Deuxièmement, ce qui est plus embêtant, c'est ce que Robert disait, c'est-à-dire qu'ils sont sous ce que vous disiez aussi, Mathieu.
Sous contrôle judiciaire.
Il ne faut pas vous diminuer dans ce débat, bien sûr. Donc,
le problème de Mediapart, petite parenthèse, c'est qu'ils sortent un article à 2 heures de ma prise d'antenne et qu'il y a 12 pages à lire et à digérer. C'est technique.
Oui,
mais bon, ça y est, je l'ai bien en tête, le dossier.
C'est très bien fait, d'ailleurs, ils sont sous contrôle judiciaire, ils se rencontrent, ils ne peuvent pas se rencontrer, donc ça dépend du juge. C'est la justice, c'est les magistrats, instructeurs, qui décideront s'il y a violation. Il faut faire très attention d'ailleurs, parce que les juges d'instruction parfois peuvent prendre aussi des décisions qui conduisent à des détentions préventives. Donc, quand on viole la loi, et notamment le contrôle judiciaire, etc., c'est arrivé déjà. Bon, ça, il faut faire gaffe. Donc. Et la deuxième chose, c'est que, bien évidemment, ça engage, je trouve que ça gêne beaucoup plus Benalla, en l'état, que le président de la République. Parce que le président de la République, il aurait été beaucoup plus difficile pour lui qu'un enregistrement montre qu'il est toujours en contact avec Alexandre Benalla,
clairement l'enregistrement ne le montre pas.
Dont il faut dire qu'il a très bien rempli son office lorsqu'il était employé par le chef de l'État dans la tâche qui lui a été assignée. C'est vrai. Au jour le jour, si vous voulez, jour après jour. Maintenant, c'est vrai que le personnage échappe aux critères politico, si vous voulez, administratifs. Mais il n'empêche que c'est un feuilleton, c'est vrai, qui constitue un petit caillou quand même dans le mocassin du chef de l'État, c'est indéniable, avec des conséquences politiques.
Catherine ?
Non, ce que révèle l'enquête de Mediapart, enfin pour l'instant, c'est que Benalla aurait passé un contrat noué par son ami Vincent Kras, à qui il raconte ses petites histoires, avec un homme d'affaires russe, Iskander Makhmoudov, soupçonné d'être lié à la criminalité organisée. Ils ont reçu de l'argent. Enfin, c'est ça devient là maintenant un autre... C'est une
ça,
autre
c'est
histoire.
C'est le dossier le moins simple, mais peut-être le plus grave.
C'est ça le plus grave. Et savoir s'ils ont noué ce lien-là et ce contrat quand il était encore à l'Élysée. S'il l'a fait après son départ, s'il l'a fait, si ça s'est passé lorsqu'il était à l'Élysée, alors là, c'est très embêtant. Oui. Mais est-ce que le président Macron pouvait le savoir? Mais pas du tout. Vous voyez, c'est...
Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que... Et là, Charles a tout à fait raison. Mais là, il peut se retrouver en tôle un jour. Parce que, franchement... Et c'est qui laisse penser que c'est pas forcément lui qui a donné cette bande. On n'en sait rien, donc peut-être que c'est lui. Mais si c'est lui, vraiment, il est un peu léger, ce garçon. Parce que, franchement, entre dire clairement et montrer clairement que le contrôle judiciaire est violé, ce qui est quand même, effectivement, rien que ça, quand on viole un contrôle judiciaire, on va en taule. C'est comme ça, en préventif. Bon, voilà. Donc, maintenant, c'est clairement violé, donc il pourrait être... Deuxièmement, il y a un parjure et un vrai mensonge devant les parlementaires français,
devant la commission d'enquête sénatoriale.
Il a été interrogé sur ses activités pour sa société concernant effectivement des conseils et du consulting en sécurité. Il a nié qu'il ait mené une quelconque activité à l'égard et avec cet oligarque russe. Maintenant, là, lui-même dans cette bande semble dire le contraire. Donc c'est une deuxième raison pour éventuellement risquer de passer quelques jours derrière les barreaux. Donc tout ceci, encore une fois, est tout à fait fantasque. Là où je suis d'accord avec Charles, c'est que de toute façon... Macron pourrait quand même aurait pu clairement se passer de cette affaire, mais maintenant ce feuilleton effectivement est finalement beaucoup plus gênant pour Benalla lui-même, oui, pour qui ça va mal se terminer, que pour Macron.
Charles ?
Oui, non, en ce qui concerne l'affaire évoquée par mes camarades, c'est-à-dire le ouzbek russe Mahmoudov, c'est Charles.
Mahmoudov,
voilà. Et donc, c'est un contrat qui a été passé en dehors de... normalement, enfin, tel que je connais l'enquête à l'heure actuelle, le contrat qui consistait à s'occuper des biens immobiliers de cet oligarque russe, biens immobiliers qu'il possède à Monaco, et la protection de sa famille qui passe un certain nombre de jours, de temps à Monaco. Sa femme, sa fille, etc., ses enfants. Bon, et ce contrat n'a pas été passé avec Benalla, mais avec la société de Vincent Crass, qui est un gendarme de réserve, etc. Alors, est-ce qu'après, il y a eu d'ailleurs, si mes renseignements sont bons, je crois qu'ils le sont, un versement, un acompte de 300 000 euros sur un contrat d'1 200 000 euros. Cet acompte a été passé avec la société de Vincent Crass, qui a sous-traité à une autre société pour s'occuper de la sécurité de cet oligarque. Donc là, pour l'instant, rien n'est établi sur le fait que employé à l'Élysée, à ce moment-là,
Alexandre Benalla est
touché de l'argent de cet oligarque.
Bon, comme à chaque fois avec l'affaire Benalla, on va attendre la... Bon, là, on est quoi, saison 3 ?
Le prochain
épisode. On va attendre la saison 4, oui, ou les épisodes, en tout cas.
Je trouve que ça suffit, là.
Ça y est,
on est une nouvelle série.
Mais vous savez, il y a toujours la saison de trop. Dans toutes les séries télé qui marchent bien, il y a toujours la saison de trop. La saison qu'ils font juste pour l'argent. Et peut-être qu'il faut fermer le chapitre. On verra. Merci beaucoup, en tout cas, mes chères grandes voix, d'être venues ce soir dans le studio d'Europe 1. Catherine Ney, Robert Namias et Charles Villeneuve. Un excellent week-end à vous. Catherine, le week-end, bon, bah, demain matin avec Bernard, évidemment. Tiens, j'ai plein de choses à vous annoncer. Et oui, je sais, je vais mettre un tout petit peu en retard. Il y a Bernard Laporte qui répondra aux auditeurs d'Europe 1 dimanche soir, c'est à 20h dans le studio Belmar avec Lionel Rosso. La matinale de Nikos, la centième, c'est lundi matin, là aussi au studio Belmar, la centième, avec beaucoup d'invités et beaucoup de public, évidemment, les auditeurs d'Europe 1, Charles.
Ce sera d'autant plus intéressant d'écouter Bernard Laporte que ce soir, l'équipe de France, après 8 défaites consécutives,
pronostic,
joue contre le pays de Galles.
Pronostic, victoire, défaite.
Toujours pour les Bleus.
Toujours pour les Bleus, évidemment. Et ne manquez pas non plus le grand rendez-vous, là c'est important particulièrement, 10h-11h dimanche matin avec Hélène Jouan qui reçoit Laurent Wauquiez. C'est intéressant cette semaine. 19h56, excellent week-end à toutes et à tous. Le Grand Journal continue le week-end avec Philippe Bandel. Et la soirée continue sur Europe 1 avec Émilie Mazeuillet. Bonsoir Émilie.
Salut.
Vous avez vu, j'ai fait toute la grille d'Europe 1 presque.
C'est génial.
C'est pas mal.
Vous êtes parfait.
Qu'est-ce qu'on écoute ce soir Émilie?
Laurent Wauquiez. Non.
Il chante aussi.
Ah bah oui,
je crois qu'il a chanté. Je crois qu'il y a quelque chose.
Oui, le petit bonhomme en mousse, non? Il a pas chanté ça? Alors non, ce soir on écoute Blancas.
Oh!
Et toi, c'est quoi ton nom?
Puisque le vendredi dans musique, c'est le banc d'essai des nouveautés. Il y a une nouveauté qui nous a tapé dans l'oreille. C'est le nouveau single de Blancas. C'est quoi ton nom? Ils vont venir nous le présenter en direct en studio.
Il y a plus d'accordéon?
Non, pas
non,
sur ce morceau-là.
Fini. Oh, Émilie Mazeuillet, belle soirée en musique avec Blancas. Bon week-end, Omblin.
Merci Mathieu, et on dit qu'on vous retrouve aussi lundi soir, le Grand Journal du soir à partir de 17h sur Europe 1. Tout de suite avec Isabelle Millet pour l'information.
Europe 1.